Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du forum de Studio Kalangou que nous enregistrons aujourd'hui à Tawa. Situation de la campagne agro-pastorale dans la région de Tawa, c'est le thème de notre émission. En 2023, le bilan officiel de la campagne agro-pastorale de la région de Tawa fait ressortir 648 villages agricoles déficitaires à plus de 50% sur un total de 1967 villages, soit 32,94%. La campagne démarrée en mai a été caractérisée par une irrégularité des pluies et leur mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace, ce qui a perturbé la production fourragère dans les départements d'Illela, Tawa et Bagaroua. Pour cette année 2024, même si plusieurs villages ont déjà semé, la campagne n'est pas encore effective selon la direction régionale de l'agriculture. Comment se déroule la campagne agro-pastorale de la région de Tawa? À cette question et à bien d'autres, nous tenterons de trouver des réponses avec nos invités ici à Tawa. Il s'agit donc de M. Nouma Amman, chef service vulgarisation de la direction régionale de l'agriculture. Bonsoir.
Et bonsoir.
Et M. Seydou Halidou, il est le chef service production animale à la direction régionale de l'élevage de Tawa. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons également M. Tchemogo Aboubakar, secrétaire général permanent de la CRA, rendu par là la chambre régionale de l'agriculture. Bonsoir, M. Tchemogo.
Bonsoir.
Et enfin, M. Hiskwa Moudé, il est l'administrateur base régionale à Rentawa et à Gadez. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Je suis Nafis Adam Sylph à la modération. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous et merci, chers invités, d'être venus. La campagne agro-pastorale 2024, la situation à la date d'aujourd'hui, c'est de cela qu'il s'agit dans cette émission. Je commence avec vous, le représentant de la direction régionale de l'agriculture, M. Nouma Amman, de la région de Tawa. La campagne agricole s'est-elle bien installée?
Donc, la campagne agricole 2024 ne s'est pas définitivement installé, mais en cours d'installation. Parce que sur les 1992 villages, il n'y a que 1470 qui ont semé à la date du 30 juin.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de localités qui ont déjà semé?
Oui, ce sont les départements du sud, Madawa et Koni, Malbaza, et une grande partie du département de Bouza qui ont bouclé leur semis.
Cette année et l'année dernière, quelle est la comparaison que vous pouvez faire sur l'installation de cette campagne agricole?
Donc, quand on raisonne par rapport au nombre de villages qui ont semé, on peut dire que l'année 2024 est beaucoup plus en retard que l'année 2023, puisque l'année 2023, à cette période, au 30 juin, et tous les villages ont effectué leurs semis.
Et donc, dans tous ces villages où les semis ont déjà été plantés, est-ce qu'aujourd'hui les pluies sont régulières selon vos constats?
Les pluies n'étaient pas régulières parce que il y a eu des poches de sécheresse qui ont duré jusqu'à de 15 à 17 jours. Cette situation a fait en sorte que certains villages ont vu avorter leurs semis. Il a fallu...
C'est-à-dire avorter?
Ça veut dire qu'ils ont perdu les semis qu'ils ont effectués. Il a fallu reprendre une à deux fois, voire même trois fois, pour en tout cas les semis effectifs.
Merci pour ces précisions. Je reviendrai vers vous. Je donne la parole à M. Seydou Halidou, le chef service production animale à la direction régionale de l'élevage de Tawa. La campagne agricole n'est pas encore bien effective dans la région de Tawa. Alors, qu'en est-il de la campagne pastorale?
Merci, madame. Donc, comme la campagne agricole, même au niveau de la campagne pastorale, donc elle ne s'est pas installée. Et l'installation reste toujours timide dans toute la région de Tawa. Donc, il faut aussi rappeler que l'année passée, on a enregistré un déficit de plus de 2 millions de tonnes de matière sèche. Et il y a aussi eu beaucoup de cas de feux de brousse, donc qui ont ravagé plus de 60 000 hectares. Et pour cette année, vraiment, l'installation reste toujours timide. Donc, les pluies enregistrées n'ont pas permis jusqu'à présent une généralisation de la campagne pastorale. Et la germination des espèces herbacées donc, reste localisée donc, au niveau de certaines zones. et la situation alimentaire du châtelet reste toujours préoccupante. Actuellement, l'essentiel de l'alimentation des animaux est toujours assuré par les résidus des récoltes et les résidus des cultures de contre-saison, ce qui fait que les éleveurs souffrent puisqu'il faut acheter toujours les aliments complémentaires pour complémenter leurs animaux.
La campagne agro-pastorale cette année n'est pas encore bien installée selon les deux directions, que ce soit la direction régionale de l'agriculture et de l'élevage. Je me tourne vers vous, M. Tchemogou Aboubakar, vous êtes le secrétaire général permanent de l'ACRA, la Chambre régionale d'agriculture. Alors vous, comment vous analysez le déroulement de la campagne agro-pastorale de la région de Taba?
Merci de m'avoir donné quand même la parole. Et j'essaie d'analyser au niveau surtout des producteurs. Ils vivent aussi la situation parce qu'ils sont les acteurs principaux, que ce soit éleveurs et agriculteurs en termes végétal. C'est une campagne qui commence à s'installer timidement. Aujourd'hui, on est déjà mi-juillet. Comparativement, comme l'a si bien expliqué, et l'élevage et l'agriculture, il y a vraiment un retard dans la pluviométrie des pluies qui ont commencé cette année et l'année passée. Donc les producteurs vivent aujourd'hui des difficultés qui sont surtout dues, comme il l'a bien aussi souligné, les gens ont fait 2, 3, certaines 4 fois, ils font des semis, ça avorte, ils ressèment, vous voyez. Donc celui qui a des stocks, il a déjà épuisé des stocks. Donc, la nécessité d'avoir des semences précoces est là.
Justement, là, comment...
Au niveau des éleveurs, vous voyez aujourd'hui, comme il vient de le dire, tout est basé maintenant, l'alimentation, sur les résidus de culture. Aujourd'hui, quand vous regardez nos champs, les gens ramassent tout. Même dans la zone nord où il est interdit d'y accéder, d'y ramasser, les gens ramassent. Aujourd'hui, il y a des véhicules qui vont jusque là-bas pour ramasser. Donc, même les résidus là, aujourd'hui, on peut dire qu'on est en manque. Comme vous voyez, donc, c'est une situation vraiment qui est préoccupante, que les éleveurs vivent. S'il y a des animaux aujourd'hui qui meurent, il y a des animaux que les gens débradent à vil prix et des dispositions sont en train d'être prises, soit au niveau de l'État et au niveau de nos producteurs aussi.
Les producteurs, même à l'entame de cette campagne agricole, comment ils l'ont abordé?
Oui, bon, les producteurs, ils l'ont abordé de façon comme ils ont l'habitude aussi de l'aborder avec... la sensibilisation que font les services techniques à leur niveau, d'utiliser des semences précoces, d'utiliser aussi des dates propices pour semer. Mais comme le changement climatique a amené aussi beaucoup de décalages aujourd'hui et d'irrégularités dans les pluviométries qu'on connaît avant,
oui.
Ce qui fait que les normes suivies même des fois ne sont pas dits aux aléas climatiques qui sont en train d'être mis en cause.
Vous parlez tout de suite de semences précoces. Est-ce que ce sont les semences préconisées? Qu'est-ce que d'ailleurs les semences précoces pour ceux qui nous écoutent?
Les semences précoces, ce sont des semences, si on peut les dire, hâtives, qui ont des périodes courtes, périodes de production. Donc avant 2 à 3 mois, les gens ont déjà semé, ils ont récolté.
D'accord.
Donc c'est ces semences-là qu'on préconise. Il y a beaucoup de variétés, mm-hmm. que l'agriculture, que nous, en tant que aussi chambre d'agriculture, et les organisations de producteurs aussi, essayent de préconiser au niveau de ces producteurs et de les sensibiliser pour qu'ils utilisent ces genres de semences.
D'accord. Ouais. Merci, M. Tchemogou. Alors, les producteurs et les agriculteurs peinent à joindre les deux bouts avec le déroulement de la campagne agro-pastorale qui se fait timidement dans la région d'Ottawa. Monsieur Riskwa Maudé, vous êtes l'administrateur base régionale de l'Arène Tawa Agadez, entendez par là l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. Comment les éleveurs vivent ce début timide de la campagne pastorale?
Merci madame. Pour le volet élevage et en ce qui concerne l'association Arène, qui est une association qui défend les droits des éleveurs, et comme on dit mes collègues bien avant moi. Donc la campagne, elle s'installe timidement, mais difficilement. Pour les éleveurs que nous défendons, nous sommes encore dans la soudure de 2023. Parce que même dans les zones sud où il a plu, le pâturage n'est pas encore au point de satisfaire les éleveurs. Or, vous savez, quand il y a les premières pluies au sud, les éleveurs, de par une tradition, les lois, les éleveurs doivent quitter le sud pour le nord. quand ils quittent le sud, ils viennent dans des zones au nord où il n'y a pas plu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pâturage. Donc même la transhumance aujourd'hui du sud au nord, elle est difficile parce que les éleveurs font la transhumance dans des zones où il n'a pas encore plu. Et ce qui fait que les éleveurs sont obligés de se rabattre sur les résidus de culture de l'année 2023, sur les résidus de certains produits maraîchers et qui se raréfient aussi. Et à cela aussi s'ajoute aujourd'hui la chaleté des aliments bétail. Mm-hmm. Même les résidus de culture, les aliments bétail, quand vous prenez le son aujourd'hui, les prix ont extrêmement grimpé et sont en train de vouloir vraiment dépasser la capacité des éleveurs. Et l'une des difficultés aussi, c'est le mauvais empoint des animaux. Les animaux sont tellement maigres et les prix ont tellement baissé. Même si vous avez un animal moyen, si vous le vendez, ce n'est pas évident que vous accédez à l'aliment bétail et même à l'alimentation des humains nécessaires. Mmh. Et maintenant que la soudure s'est prolongée jusqu'à un temps, les prix ont carrément baissé parce que l'état d'embonpoint des animaux a chuté. De par les communications que nous avons avec des éleveurs locaux de la zone pastorale, nous avons des vaches de 5 000, des vaches de 10 000. Nous avons des brebis de 1000 francs.
Et quelles sont les localités les plus touchées de la région
Toute
de
Tawa? Toute la zone nord est touchée. Il n'y a pas aujourd'hui au nord là, il n'y a pas une zone qui fait exception. Mm-hmm. Tous les éleveurs aujourd'hui au nord là sont dans cette difficulté. Parce que l'année 2023, à cette date de l'année 2023, déjà au nord les pâturages étaient au point, les mares étaient pleines, déjà la transhumance se faisait tranquillement. Mm-hmm. Mais cette année, vraiment il y a des difficultés. Les pluies sont venues en retard, ça a prolongé la soudure. Donc, dès que la soudure se prolonge là, ça a un effet sur l'état d'empoint des animaux et ça a un effet sur les prix. Donc, aujourd'hui, un éleveur, de par les mauvais empoints, il peut vendre tout son troupeau.
Effectivement,
et il ne peut pas accéder à un sac de mie.
Effectivement.
Donc, il y a cette difficulté là, vraiment que. Ce que le retard de l'installation de la saison a amené cette année.
Monsieur Nuhu Mohamed, le chef service vulgarisation de la direction régionale de l'agriculture, aujourd'hui, quelle est la situation des aménagements hydro-agricoles de la région de Tawa?
À Tawa, il n'y a pas un grand nombre. C'est vraiment le principal, c'est celui de Kwani.
Kwani, oui.
Celui de Ibo Haman et celui de. Et les autres comme Anekar et Galmi. Donc,
et comment ces aménagements fonctionnent aujourd'hui?
Donc, pour celui de Kwani, il a connu une réhabilitation avec le MCA. Et on peut dire qu'il fonctionne, en tout cas passablement, parce que vous savez, avec les aliments, c'est l'alimentation en eau. Donc, ce n'est pas encore résolu, le problème d'eau n'est pas encore résolu à Kwani. Donc, la même chose pour les autres. C'est un problème, c'est approvisionné à partir des barrages qui sont ensablés. Donc maintenant, après une pause pluviométrique de 15 jours, il faut irriguer. Et maintenant, il n'y a pas une quantité d'eau suffisante pour irriguer les parcelles. C'est tout ça, en fait, le problème.
Mmh. Oui, mais dans de telles situations de pause pluviométrique, qu'est-ce que vous recommandez aux producteurs?
Oui, une fois que les cultures sont installées déjà et c'est peut-être pour là où il y a la possibilité de faire des forages superficiels. C'est dans la zone où on peut faire le maraîchage, c'est faisable. Mais dans d'autres cas, ce n'est plus, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'autre alternative.
Monsieur Seydou Halidou, le chef service de la production animale à la direction régionale de l'élevage de Tawa. Donc, le représentant de l'AREN l'a dit aujourd'hui, et vous-même, vous l'avez confirmé, que ces pasteurs-là sont des situations difficiles. Mais vous, au niveau de votre direction, comment vous accompagnez ces pasteurs-là dans de telles situations?
Okay. Donc, l'accompagnement par l'État s'est fait à deux niveaux. Donc, d'abord, il y aura l'État prépare une campagne de vaccination en amont de la campagne pastorale et aussi à la mise à disposition des intrants, donc pour la vente à prix modéré. Donc pour la campagne de vaccination, donc l'État vaccine contre trois principales maladies. Donc pour les bovins, l'État vaccine contre la peste bétulinaire, PPR. Pour les bovins, c'est la péripneumonie contagieuse bovine, PCB. Et aussi chez les camélins, c'est la pasteurose. Donc cette année, la cible au niveau régional était de vacciner 90% des bovins donc contre la PPCB.
La PPCB.
90% des bituruminants contre la PPR et 30% contre la pastellose des camélins.
Et est-ce que ça a déjà débuté?
Ça, c'est même fini. C'est déjà fini. Et on a eu pour les bovins donc un résultat de pour une cible de 90%. On a eu un taux de réduction de 61%.
Mm-hmm.
Pour les petits ruminants, pour une cible de 90%, on a eu 87,57%.
Mm-hmm.
Et pour les camélins, pour une cible de 30%, on a eu 23,63%. La deuxième action, c'est la mise en place des intrants, donc pour la vente à prix modéré.
Pour, oui, les aliments bétail.
Aliments bétail. Donc généralement, c'est le sein du blé. Il y a l'aliment composé et cette année on a eu même la luzerne. Donc au total, dans la région de Tawa, pour la vente à prix modéré, c'est 5214,97 tonnes donc, qui ont été vendues à prix modéré.
D'accord.
Donc le prix c'est 4000 francs pour le son du blé de 50 kilos, mm-hmm. 5000 pour l'aliment composé et 2500 pour la luzerne, qui c'est des sacs de 25 kg.
Mais est-ce qu'il y a un suivi que vous faites pour vous assurer que ces aliments soient vendus à ce prix que vous avez fixé aujourd'hui?
Oui, au niveau de chaque commune, puisque les intrants sont placés au niveau de chaque commune.
Mmh.
Et au niveau de chaque commune, il y a un comité qui est formé pour faire la vente. Et ce comité-là, il implique les autorités, le service technique et même les représentants des éleveurs. Oui. À part l'État, il y a d'autres partenaires aussi qui appuient les éleveurs. On a eu cette année 222 tonnes donc, qui ont été fournies par quelques ONG, dont notamment ACTED, VSF, CICR, qui ont appuyé surtout les BAB, les banques aliments bétail. Oui, mais vraiment, ce tonnage-là reste insuffisant. Vraiment, c'est insuffisant.
C'est insuffisant.
Oui, c'est vraiment insuffisant, mm-hmm. par rapport à la demande et par rapport aux besoins réels des éleveurs.
D'accord. Alors, M. Tchemogo Aboubakar de l'ACRA, on sait qu'aujourd'hui, l'un des plus grands défis des agriculteurs, les producteurs, ce sont des attaques d'ennemis, des cultures.
Si on peut le dire pour les attaques, la première des choses, c'est surtout au niveau des... Si on arrive d'abord à avoir les pluies souhaitées, oui, il y a quand même... Des conseils sont donnés au niveau des producteurs avant même de semer. Comment on doit préparer les lits de semences, comment on doit mélanger des semences avec des fongicides pour que vraiment tous ceux qui attaquent fongiques qui vont dans le sol
puissent être minimes.
Voilà, pour puissent être maîtrisés, pour que vraiment la graine, ça c'est des activités, des travaux régaliens de l'agriculture qui les font. Il y a aussi des organisations aussi qui sont dans cette optique. Pour pouvoir maintenant, quand la saison s'installe aussi, il y a quand même aussi des conseils qui sont donnés. Et il y a l'État aussi qui se mobilise à travers vraiment la protection des végétaux. S'il y a des zones où les attaques sont trop prononcées, il va y avoir vraiment une mobilisation pour aller vraiment maîtriser, surtout dans le cadre des criquets et consorts.
Mm-hmm.
On essaie de les maîtriser.
D'accord.
Maintenant, il y a certains producteurs aussi, surtout dans les vallées, qui aussi maîtrisent parce qu'ils ont été formés. Ils sont des brigadiers qui essayent au niveau de leur champ aussi de faire des services comme ça, où ils traitent pour leurs propres producteurs. Maintenant, il y a aussi des dynamiques pour tout ce qui est vraiment lutte biologique,
mm-hmm.
qui est aujourd'hui développé au sein même de nos organisations-là.
Oui, par exemple.
Voilà, par exemple, pour lutter contre la chimie mineuse du mil, il y a des dispositifs qui sont mis dans la région, à travers la Chambre régionale d'agriculture, à travers l'agriculture, à travers l'INRA. C'est des producteurs qu'ils ont formés aussi. Ils font l'élevage de ces chenilles-là, qu'ils vont lancer dans la nature. Et c'est eux qui vont attaquer maintenant les dévastateurs pour maîtriser vraiment les attaques de tout ça.
Mm-hmm.
Donc c'est un travail qui est déjà fait en amont, qu'on continue chaque année quand même à sensibiliser, à former les producteurs sur ces choses-là.
D'accord. Alors, monsieur Nuhu Mahamane, on sait que les semis ne sont pas encore tellement mûrs pour parler peut-être d'attaque, de première attaque d'ennemis de culture. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la direction régionale, vous avez déjà les produits phytosanitaires sont déjà disponibles en quantité et en qualité pour faire face aux attaques des ennemis de culture de la région?
Oui, par rapport en tout cas à la prévision sur... les infestations, les ennemis des cultures. Chaque année, à la veille de la campagne, l'État fournit un effort pour mettre à la disposition des producteurs de produits en cas d'intervention de les utiliser. Même cette année, il n'y a même pas deux jours de cela, nous avons reçu le stock destiné à la région de Ta pour être utilisé en cas, en tout cas, de pullulation des ravageurs. Donc, c'est déjà disponible, inshallah.
Oui, mais en termes de productivité aujourd'hui dans la région de Tawa, quelles sont les localités les plus productives?
Oui, vous savez, la productivité est liée à beaucoup de facteurs, donc principalement la pluviométrie. C'est les zones les plus arrosées, les zones du sud, comme j'avais dit tout à l'heure, qui sont les plus productives. C'est aussi bien en culture, comment dirais-je, pluviale qu'en culture irriguée. Parce que c'est la pluviométrie, en tout cas, le premier facteur. Ensuite, l'autre facteur, c'est l'utilisation des intrants. Et ça aussi, c'est lié, en tout cas, à l'économie des producteurs. L'utilisation d'engrais, au vu, en tout cas, de la disponibilité, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais avec, en tout cas, le conseil qu'on donne pour la microdose, c'est-à-dire l'utilisation juste de la dose essentielle pour les cultures. En tout cas, certains producteurs, et en tout cas, ça donne beaucoup à ça.
Et certains se font recours aux engrais chimiques.
Bien sûr, et bien sûr. Et en tout cas, la productivité est liée à beaucoup de facteurs. Je disais tout à l'heure, là, c'était en tout cas la pluviométrie, le premier facteur.
Et quels sont les types de variétés qui sont le plus utilisés, les types de variétés de semis qui sont utilisées dans votre région de Tawa?
À Tawa, la première culture, d'abord, c'est le mil.
D'accord.
Ensuite, le sorgho. Ensuite, le niébé. Ensuite, l'arachide. C'est les quatre premières principales spéculations. Au sein desquelles, vous savez, pour chaque le mil, il y a plusieurs variétés. Dans la première variété, la plus appréciée par le professeur est la première variété HKP, suivie, en tout cas, de la variété locale Guerguera. Maintenant, pour le sorgho, c'est le sorgho local qui est beaucoup plus apprécié, suivi de la variété Irat, qui est la variété hâtive. Comme Siamogo l'a dit, avec en tout cas un cycle court et compte tenu en tout cas de, comme vous avez dit, du changement climatique, en tout cas d'adaptabilité de cette variété-là au contexte en tout cas de la région. Et maintenant pour l'arachide, c'est la variété locale, ensuite suivie de la variété 55 et 431, comme on appelle ça El Dakar. Donc maintenant pour le niébé, c'est là où il y a une gamme de variétés. Actuellement, le niébé, on peut dire que sur 100%, plus de 80% sont des variétés améliorées pour le sort, par rapport au niébé. Il y a une gamme dont actuellement la première c'est IT90, suivie de la KVX. Et les autres.
Et la majorité de ces agriculteurs, de ces producteurs, ont connaissance de ces types de ces.
Bien sûr, par rapport comment la connaissance des variétés améliorées, je pense que tout le monde a connaissance de ça, mais tout le monde n'a pas accès à ça.
Justement.
C'est un problème d'accessibilité.
Pourquoi le prix qui est élevé ou bien pour quelle raison?
Il y a cette question du prix et il y a cette question de disponibilité. C'est pas à la portée tout près. Souvent, il faut aller loin. Souvent, en tout cas, il faut être bien informé. Parce que la quantité qui est produite jusqu'alors par les producteurs semenciers n'est pas encore suffisante pour le pays.
D'accord. Merci bien. Alors, monsieur Griskwa, nous sommes, comme vous le dites, en période de soudure. Les pasteurs sont en période de soudure. Mais aujourd'hui, quelle est la disponibilité d'aliments? Quel est le type d'aliments bétail disponible aujourd'hui pour ces pasteurs, ceux qui achètent sur le marché?
Comme l'a rappelé le représentant de la direction de l'élevage, et l'État a toujours fait des efforts pour pallier à la soudure, mais comme il l'a souligné, cette année, c'était vraiment insuffisant. Et même l'apport des partenaires, c'était insuffisant. Et mieux, en fait, si une période de soudure se prolonge. Je pense qu'en amont, l'État n'a pas défini une approche pour prendre en charge cette circonstance-là.
Est-ce que vous voulez dire même cette année aussi, c'est pareil, l'État n'a pas encore défini une quelconque
non,
approche
fait, ça, pour... ça, au fait, c'est de tout le temps.
Okay.
Au fait, il y a des années où l'installation de la campagne agro-silvopastorale, elle est normale, mais il y a des années où elle vient en retard. Or, si elle vient en retard, ça dit que tous les efforts que l'État a fait, c'est destiné à prendre en charge une période de soudure normale. Mais si elle est anormale, il n'y a pas une stratégie, il n'y a pas de mécanisme approprié. C'est des dispositions que l'État doit prendre, parce que une période de soudure qui se prolonge, elle a des conséquences graves.
Justement, oui.
Je vais citer quelques-unes. Des animaux qui sont en état d'embonpoint. Il suffit d'une première pluie, plus de 75%, 70% sont décimés. Donc, c'est pourquoi je dis qu'en fait, l'État fait des efforts et les partenaires. Mais il faut définir, je pense, que, une autre approche qui consiste à prendre en charge des périodes de soudure prolongées. C'est-à-dire que même si c'est un stock de sécurité que l'État doit déposer en cas... Parce que l'État l'a fait. Dans les directions de l'élevage, il y a tout le temps des stocks de sécurité. Mais c'est des stocks destinés à prendre en charge des périodes de soudure.
Oui, mais vous...
Mais quand elle se prolonge, je pense que l'État n'a pas encore défini un mécanisme pour prendre en charge ce retard.
Oui, il va répondre le représentant de la direction. Maintenant, mais vous, oui, continuez.
Mais pour répondre à votre question, en fait, les stratégies que les éleveurs sont en train d'adopter
justement
pour
les alternatives,
faire face
oui.
à cette période de soudure prolongée, c'est toujours l'achat des aliments bétail sur le marché et l'appui des partenaires qu'il y a eu. Donc, à cette date-là, aujourd'hui, les éleveurs, le peu de recours qu'ils peuvent faire, c'est les recours au niveau des marchés. Parce que je pense que l'État a déjà fait la vente à prix des aliments bétail. Et les plus aliments bétail, comme il l'a dit, c'est insuffisant. Le plus souvent, c'est un sac, deux sacs par ménage. Pour quelqu'un qui a 50 têtes de vaches, une trentaine ou quarantaine têtes de petits ruminants, vous voyez ce que ça fait en termes de gap. C'est-à-dire qu'ils se rabattent sur le marché et sur l'achat des aliments bétail et sur le son, qui coûte extrêmement cher. Et j'avais rappelé tout à l'heure que les prix des animaux et leur embonpoint ont beaucoup baissé. C'est-à-dire qu'ils ont de moins en moins accès aux aliments bétail, dû à cette circonstance-là créée.
Malheureusement. Alors, monsieur Saïdou, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce point, là où il parle du manque d'approche pour faire face à cette situation? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la question?
Bon, moi, je dirais que vraiment, l'approche est là. Parce que sur les stocks là dont je vous ai parlé, il y a 1250 tonnes qui est vraiment un stock de sécurité qui est placé au niveau régional. Et quand il y a des situations, donc c'est dans ces stocks-là qu'on prélève pour amener au niveau des zones où c'est vraiment grave. Par exemple, quand je prends l'exemple à Balak, les pluies ont occasionné des dégâts.
Tout récemment.
Donc, c'est une vallée qu'on appelle Inergan. Et le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage était de passage. Donc, il était parti visiter le site où il y a eu des mortalités d'animaux. Donc, il a instruit la direction régionale de l'élevage donc, de prélever dans le stock de sécurité 50 tonnes pour amener là-bas. Donc, vraiment, je pense que... Mais j'ai toujours dit que c'est vraiment insuffisant. C'est vraiment insuffisant.
D'accord. On sait que le Niger subit également les conséquences du changement climatique. Vous, M. Tchemogo de l'Accra, quel est même l'impact du changement climatique sur l'agriculture de la région de Tawa?
Bon, l'impact du changement climatique, il est là, à commencer par aujourd'hui les pluies cycliques qui sont irrégulières, qui sont à des périodes qui ne coïncident pas chaque année. Et aussi la saison qui se rétrécit d'année en année. C'est des impacts directs que tout le monde ressent, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les éleveurs. Maintenant, au plan même de la productivité de nos champs, ça a un impact énorme parce que quand vous regardez aujourd'hui la région, tout est lié à un système hydrique qui des écoulements. On a de la pluie, on est sûr et certain qu'on va faire une bonne production. Que ce soit en période maraîchère, que ce soit en période de pluviométrie de saison. Mais malheureusement, avec l'impact des changements climatiques, on est en train de voir cette rareté de pluie qui fait en sorte que même des efforts aujourd'hui conséquents qui sont en train d'être mis en œuvre, tant au niveau des populations même, producteurs qui, tant au niveau de l'État, sont en train d'être mis à nu. Parce que quand il n'y a pas de pluie, ça impacte directement sur les arbres aussi. Ça, c'est, les arbres meurent, les animaux meurent, et ça, c'est des conséquences directes. La production qu'on attend dans l'année, on ne l'a pas. Et malheureusement, aujourd'hui, les politiques qui sont là et ne permettent pas de couvrir totalement les pertes liées à ces changements climatiques. Aujourd'hui, si un éleveur perd tout son troupeau, il n'y a pas un endroit où il va aller se plaindre pour qu'il soit remboursé ou dédommagé et tout ça là. C'est des choses qui sont là. C'est la même chose au niveau de l'agriculteur. Aujourd'hui, il y a des maladies qui sont, tant au niveau des animaux qu'au niveau végétal, qui sont des nouvelles qu'on ne connaissait pas avant, mais qui sont venues avec tous ces changements climatiques-là. Comment résoudre tous ces problèmes-là que nos producteurs vivent? Et tout ça, il faut des accompagnements conséquents avec des politiques qui prennent en compte tous ces paramètres-là. D'accord. Parce que c'est des risques que les producteurs courent aujourd'hui. Tu produis, tu ne sais pas quel rendement tu vas avoir,
oui.
Parce que la pluie ne vient pas à temps, parce que le puits que tu as fait n'a pas pris assez d'eau pour que tu arroses, alors que tu as mis une spéculation qui va faire 6 mois, par exemple, tu mets de l'oignon, tu n'as même pas 1 mois d'arrosage. Donc, vous voyez,
c'est
si c'est la production fourragère, c'est la même chose. Si il y a une grande pluie, spontanément, l'herbe sort, on fait encore plus de 2 semaines, 4 semaines, 5 semaines, il meurt. Alors qu'il n'y a plus de graines.
C'est
donc il faut des grandes politiques qui vont prendre en compte tous ces risques-là qui sont là aujourd'hui. Donc vraiment, c'est ce genre de choses-là.
Alors, monsieur, comment l'État accompagne alors les agriculteurs dans cette situation de changement climatique?
Bon.
L'accompagnement de monsieur
voilà.
Delacra a parlé.
Donc, nous, ce que l'État fait, pour une question d'adaptabilité, et il y a l'utilisation, par exemple, des variétés adaptées, qu'on appelle variétés améliorées. Pour cette année, donc compte tenu de la situation de l'année passée, avec les plus de 600 villages dont la campagne n'a pas été bonne, donc l'État et ses partenaires ont appuyé en semences améliorées avec un tonnage de plus de 275,26 tonnes. Donc, c'est cela qui a été distribué aux producteurs, mais des zones concernées par le déficit de l'année 2023. Donc, à part cela, les autres initiatives, c'est ce que font les producteurs eux-mêmes sur l'agriculture intelligente face au climat, c'est les travaux CSDRS, donc les travaux de conservation des eaux et des sols. Donc, c'est par exemple la TASSA, c'est les trous qu'on fait, les trous pour retenir l'eau dans lesquels on va s'aimer.
Oui.
On va créer un microclimat pour la plante et ça va pouvoir boucler son cycle.
D'accord.
C'est en fait cela. Et aussi, les travaux avec l'État, toujours avec les travaux, comment dire, les HIMO qu'on dit, et la récupération des terres agricoles. Et là aussi, ça permet aux producteurs, en tout cas avec les ouvrages qui sont faits, en tout cas, d'avoir un surplus de terres cultivables et avec un rendement, en tout cas, amélioré.
Merci. Alors, monsieur Ruskoa, on parle du changement climatique. Quel peut être son impact sur les pasteurs?
Merci, madame. Les impacts du changement climatique sont déjà visibles. En tout cas, au niveau des éleveurs pasteurs et agro-pasteurs. Et l'une des conséquences du changement climatique, nous avons abouti à un constat. C'est qu'en zone pastorale, quelle que soit la qualité de la saison, il y a toujours des poches qui ne reçoivent pas la pluie. Ça, c'est un constat. Je prends un exemple. L'année passée, l'année 2023, toute la barre nord, quand vous prenez à partir de Ingal jusqu'à vers Arlit, il n'a pas plu. Alors, les poches qui ont été bien arrosées, c'est les poches de Adarbisanat et de Abalak. Et la conséquence, c'est quoi? Tous les éleveurs se sont rabattus sur ces zones-là. Ils ont tout mangé, le pâturage qu'il y a, ce qui fait que ça crée la conséquence au niveau de ces zones où il y avait le pâturage. Et les éleveurs, là, ne peuvent plus retourner chez eux,
malheureusement.
D'accord. Ça, c'est l'une des conséquences. Donc, vraiment, je pense qu'il faut s'entendre sur ce constat-là. qu'il y aura chaque année des poches en zone pastorale qui ne seront pas arrosées. Et c'est quelle que soit la qualité de la saison.
Des conflits également éleveurs-agriculteurs surviennent pendant ces périodes de campagne agricole. Vous, en tant qu'éleveur, quelle explication vous pouvez donner à ces conflits qui surviennent entre ces éleveurs et ces agriculteurs qui sont normalement censés vivre ensemble?
En fait, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, c'est malheureusement un problème qu'on est en train de traîner. En fait, des acteurs qui cohabitent ensemble, il ne peut jamais manquer petit hic, un petit conflit. Mais l'État, je pense, a mis énormément de garde-fous. Il y a tellement de réglementations, il y a tellement des instruments, des outils, il y a tellement des instances de régulation et de prévention des conflits au niveau de la région d'Ottawa. Je pense qu'il y a énormément de choses-là. Et malheureusement, ces instances-là et même ces organes de prise en charge de ces choses-là, et par manque de moyens, souvent, ils ne fonctionnent pas comme il le faut. Même les commissions foncières que nous avons, qui sont les premiers acteurs normalement en matière de régulation de ce conflit-là, et même d'appui conseil, même eux, ils fonctionnent difficilement.
Mais pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens de fonctionnement. Et même les instances qu'on met au niveau village, au niveau pour pouvoir remonter les informations, ou même pour prévenir, pour réguler, même eux, ils ne fonctionnent pas comme il le faut.
Donc à l'État de revoir.
Donc je pense que il faut réactiver ces instances-là. Il faut les rendre fonctionnelles et opérationnelles. Et il faut que chaque acteur joue son rôle, qui est le leur, surtout par rapport à la libération et à la fermeture des champs. C'est un problème sérieux par rapport
à ça. OK. Comme le temps est contre nous, vous, monsieur Tchemogo, ces conflits éleveurs-agriculteurs sont une réalité. Que doit-on faire pour les minimiser ou bien les prévenir même?
Et ces conflits, malheureusement, existent. Et des fois, ça conduit même à des morts d'hommes, comme on a vu le cas de Bangui et consorts là, et qui sont très déplorables. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on le constate et on le vit, on a des fois des lois et des politiques qui, dans la mise en œuvre encore, les gens pêchent. Parce que des fois, c'est là aussi que les choses sont en train de nous rattraper. On a des instruments, on a des lois qui cadrent tout, mais dans l'applicabilité, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on cherche, l'effectivité n'est pas là. C'est dû des fois, c'est vrai, à des moyens qui manquent les structures en tant que telles. Des fois aussi, c'est dû à une volonté qui manque aussi de nos acteurs, au niveau de nos acteurs. Parce que moi, je me dis, si des institutions existent, des outils existent jusqu'au niveau local, des fois, le fait de se focaliser beaucoup sur le moyen qui manque est aussi une erreur de nous tous.
D'accord.
Parce qu'on devrait quand même, quand l'outil existe, les acteurs sont là, de pouvoir, même si des moyens conséquents ne sont pas mis en place, que la fonctionnalité soit au moins effective. Les gens tiennent des réunions, les gens se concertent avant, mais malheureusement, ces bail-bas-là qui devraient exister, ces échanges entre les acteurs qui sont là pour la gestion et la préservation des conflits au niveau local ne se tiennent pas. On va faire une année sans que ces réunions se tiennent. Donc il y aura toujours des problèmes qui vont venir. Si on attend chaque fois que les moyens viennent, donc je me dis qu'il y a un problème au niveau
d'accord. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous parlons de la situation de la campagne agropastorale de la région d'Ottawa. Mais alors vous, M. Saïdou Halidou, de la direction régionale de l'élevage, une question unique à vous, également M. le représentant de la direction de l'agriculture. Est-ce que déjà vous avez pris des dispositions pour prévenir ces conflits agriculteurs qui surviennent pendant la période? Je commence avec vous, le représentant de la direction de l'élevage.
Ok, merci madame. Donc la prévention que l'État fait, c'est surtout au niveau de la zone agricole, donc à travers pour diminuer ou bien même respecter les ressources. Au niveau de la zone agricole, donc il y a des couloirs de passage qui normalement lors de la transition, c'est l'éleveur doit suivre. Mais malheureusement, ces couloirs-là sont généralement grignotés par les agriculteurs. Et aussi, il a déjà dit, normalement, il y a la police rurale qui doit contrôler la sécurisation de ces ressources-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui grignote là, donc on le met à l'ordre.
D'accord. C'est ça, vraiment. OK. Alors, monsieur le représentant de la direction de l'agriculture, monsieur Nour Mahaman, pour prévenir les conflits, est-ce que vous avez mis en place des dispositifs déjà?
Oui. Dans le cadre de l'attribution des conflits, ce qu'on a l'habitude de faire, comme l'élevage l'a dit, c'est le respect des couloirs de passage, des aires, en tout cas tout ce qui est ressources pastorales, c'est de pouvoir en tout cas le respecter sans semer là-dedans. Et d'ores et déjà, des cas comme ça ont déjà pris, ont été pris en charge, des cas qu'on a constatés. Oh, en tout cas, et les commissaires locales au niveau des villages et en commun accord avec les commissions communales. Donc, en tout cas, se sont donnés pour aller, en tout cas, résoudre ces petits problèmes.
D'accord.
Chaque année, c'est comme ça qu'on fait.
Alors, merci. Et donc, pour terminer, quel est votre appel aux agriculteurs pour réussir une bonne campagne agricole dans votre région?
Oui, vous savez, l'appel que je fais pour réussir la campagne, pour le producteur, lui, il prépare sa campagne depuis la récolte. C'est les semences. Donc, au cas où il est en tout cas à rupture de ses semences, en tout cas, c'est de se préparer très tôt et d'acheter les intrants nécessaires, les semences, les fongicides, et les engrais et préparer les champs. Et c'est ça, en fait. L'État, lui, dans le cadre de la protection phytosanitaire, donc, c'est en tout cas de veiller à l'approvisionnement régulier, en tout cas en produits phytosanitaires. Donc, c'est les dispositions prises avec le cadre harmonisé au niveau du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires. C'est, on fait la situation, en tout cas des besoins en produits vivriers. Et on fait en tout cas les appuis nécessaires, tels que la vente à prix modéré, et la distribution gratuite ciblée, les cash, et les cash transfert, les cash forok. En tout cas, c'est ce qu'on a l'habitude de faire.
Merci bien, monsieur Riskwa de l'AREN. Aujourd'hui, que faire pour une meilleure prise en charge des besoins sanitaires et nutritionnels du cheptel?
Je pense que pour la prise en charge sanitaire et même nutritionnelle des animaux, je pense que le ministère sectoriel de l'élevage prend déjà des dispositions, puisqu'ils ont déjà fait une vaccination. Maintenant, pour les aliments bétail, je pense que c'est un appel que je vais lancer. Et c'est peut-être un appel à l'endroit peut-être du ministère de continuer vraiment les broudailles pour augmenter vraiment de manière significative les appuis pour qu'ils soient proportionnellement et vraiment aux besoins vraiment de la population pastorale.
D'accord. Merci bien. Je termine avec vous, monsieur Tchemogo de l'Accra. Votre dernier mot?
Moi, mon dernier mot, c'est surtout à l'endroit, surtout de l'État,
oui,
de vraiment généraliser aussi la subvention ciblée des intrants au niveau de nos producteurs. Puisque quand on regarde aujourd'hui, il n'y a pas de zone qui est moins antique que d'autres, alors qu'avant, ça s'est fait dans quelques zones qu'on pense déficitaires.
D'accord.
Donc vraiment de pouvoir généraliser ça au niveau de nos producteurs et de pouvoir aussi assurer vraiment au niveau de l'alimentation, comme on l'a dit, puisque c'est l'alimentation des familles aussi qui a un impact sur le travail que les gens vont faire. Donc dans le cadre des prix modérés aussi, il faut vraiment voir de façon générale pour accompagner nos producteurs là vraiment à dépasser ces périodes-là.
Merci, merci donc, chers invités. Et c'est la fin de cette émission. Il ressort donc des interventions de nos invités que la campagne agro-pastorale s'installe timidement dans la région de Tawa. Les éleveurs et les producteurs le vivent difficilement. Il y a donc nécessité que l'État les accompagne et de souhaiter également que les pluies soient régulières dans les différentes localités de Tawa pour que cette campagne agro-pastorale 2024 soit fructueuse pour tout ça. Nous sommes donc au terme de cette émission. Nos remerciements à nos invités, M. Nuhu Mahamman, le chef service vulgarisation de la Direction régionale de l'agriculture. Merci d'être venu. M. Seydou Halidou, chef service production animale à la Direction régionale de l'élevage de Tawa. Merci aussi d'être venu. M. Tchemogo Aboubakar, le secrétaire général permanent de l'ACRA, la Chambre régionale d'agriculture. Merci aussi. Et M. Riskwa Maoudé, il est l'administrateur base régionale de l'AREN Tawa Agadez. Merci à vous. La technique est assurée par Moustapha Ayouba. Je suis Nafissa Adam Sirfa, la modération. À très bientôt sur le studio Kalongo.